Au début de ce chapitre, j'écrivais que le travail de ma mère est à la base de mon travail thérapeutique, bien que sa théorie ne puisse qu'en partie être mise en pratique. En tout cas, voici les trois éléments de sa pensée qui sont encore aujourd'hui et seront dans le futur des piliers importants de l'acte thérapeutique. Il s'agit d'abord de la passion avec laquelle elle s'investit pour les intérêts émotionnels des enfants et avec laquelle elle défend le droit au développement du vrai soi. Vient ensuite l'importance, à ne pas surestimer, du thérapeute en tant que témoin lucide. Et enfin, la force transformatrice du travail biographique. Ces trois données sont pour moi, en tant que thérapeute, indispensables et je suis persuadé qu'elles le resteront. Comme il aurait été bon de pouvoir échanger sur cela avec ma mère, virgule, avec Alice Miller. Ce sont donc les derniers mots de l'essai biographique paru l'an dernier que Martin Miller consacre à sa mère. Le vrai drame de l'enfant doué. Avec un titre qui fait allusion donc au livre qui a rendu célèbre Alice Miller. Je vous parlerai de ce livre d'un fils sur sa mère et laisserai donc délibérément de côté l'œuvre d'Alice Miller. Je vous proposerai en somme la lecture d'une manière de cas clinique, un cas où le thérapeute est bien identifiable, mais où la question reste ouverte de savoir qui est le patient, voire même si patient il y a. Dans ce cas, Martin Miller s'est fait naître comme thérapeute avec la théorie de l'enfant maltraité au cœur des travaux de sa mère. Une théorie qu'il définit pourtant comme insuffisamment utilisable au plan clinique et dont l'élaboration s'accompagne chez Alice Miller de la rupture avec la psychanalyse et de l'abandon de toute pratique clinique. Cette apparente contradiction n'est pas séparable d'une association posée tout à la fois comme irréductible et conflictuelle au principe même de l'écriture du livre sur sa mère. Fils et thérapeute. Martin Miller revendique pour cet essai biographique une double légitimité. D'une part, comme fils maltraité de sa mère et par sa mère, d'abord victime muette et observateur de sa mère, puis, je cite, auditeur empathique de ses élaborations théoriques. Donc d'une part, comme fils maltraité ayant plus ou moins bien survécu grâce à sa théorie. C'est lui qui le dit, bien sûr. Hein. Et d'autre part, comme thérapeute, vérifiant dans sa pratique la pertinence des élaborations de sa mère. Vous voyez, c'est simple. Quels sont les enjeux pour Martin Miller de l'écriture d'une biographie de sa mère? D'une biographie prenant littéralement la place laissée vacante par la désertion autobiographique d'Alice Miller, tant dans l'écriture que dans la parole adressée à son fils. Voilà donc la scène. Un fils maltraité écrit la biographie de sa mère maltraitante et théoricienne de l'enfant maltraité. Scène que, enfin, un peu complétée encore. En plus, il révèle, le fils révèle le passé de la mère comme fille maltraitée, passé qu'elle a essayer systématiquement de cacher, de se cacher et de cacher aux autres et à son fils tout particulièrement le plus longtemps possible, de la manière la plus traditionnelle qui soit, c'est-à-dire en le refoulant d'une part dans l'agir, sur le dit fils, et d'autre part dans sa théorisation classique. Une telle scène est structurée comme un fantasme. La biographie ne viendrait-elle pas témoigner du désir du fils d'être reconnu comme celui sans lequel la théorie de la mère ne serait pas advenue. Voire du désir de faire reconnaître son corps comme le corps absenté de la théorie d'une mère absentée de son corps de mère. Il s'agirait en somme du désir déployé après coup, c'est-à-dire après la mort de la mère, de faire voir du même geste l'enfant maltraité et chez sa mère et chez lui. C'est-à-dire du désir de faire reconnaître à sa mère la réalité de sa propre maltraitance et de lui redonner par là un corps de mère pour se redonner par là un corps de fils. J'ai tenté d'innombrables fois d'en discuter avec elle. Exactement comme vous le faites avec moi maintenant. C'est un article dans le Spiegel, après la mort de la mère. Mais je me suis heurté à un mur. Je ne peux pas vous en dire plus. Je ne suis pas seulement son fils, mais aussi un thérapeute, donc quelqu'un qui étudie des biographies et qui les examine de manière approfondie. Mais je n'ai pas réussi à passer à travers. On finit par l'accepter. Ce barrage m'a aussi rendu impossible de me rapprocher de ma mère dans ces 30 dernières années. C'est ma tragédie personnelle de ne pas avoir réussi, en tant qu'enfant de parents de la génération de la guerre, à établir un rapport émotionnel avec eux. Dans cet extrait d'un entretien accordé au Spiegel en 2010, quelques semaines après le décès d'Alice Miller, Martin Miller utilise donc le terme de tragédie personnelle pour désigner le contact empêché entre lui et ses parents. 4 ans plus tard, Martin Miller donnera pour sous-titre au vrai drame de l'enfant doué, donc le livre dont je vous parle, il donnera comme sous-titre « La tragédie d'Alice Miller ». Tout l'enjeu du livre réside dans la question de savoir qui est le sujet de la tragédie, ou en d'autres termes, qui est l'enfant maltraité, ou plus précisément encore, à qui appartient le corps de l'enfant maltraité. Avant de commencer, donc, quelques indications biographiques sur la mère et le fils, tirées exclusivement du livre, et qu'il faut donc recevoir comme un résumé de la reconstruction présentée par le fils. La vérité de la mère ne part pas par la bouche du fils. De même que la vérité du patient ne parle pas par la bouche de l'analyste. Pardon, c'était pas écrit, c'est juste un ajout spontané. Donc, voilà, cette présentation, c'est une présentation pour vous faciliter un peu la tâche, mais s'il vous plaît, ne prenez pas comme argent comptant. C'est la reconstruction par le fils et de la vie de sa mère et de sa vie avec elle. Alice Miller est née dans une famille juive orthodoxe en Pologne, à Lemberg, le 12 janvier 1923, et s'est suicidée le 14 avril 2010 à Saint-Rémy-de-Provence, où elle habitait depuis des années. Alice Sidja, je ne suis pas sûr de la prononciation, de son vrai prénom, était l'aînée, suivie d'une sœur de 5 ans après. Ses parents sont décrits tous les deux comme très pathologiques, avec une mère spécialement rejetante. Pendant la guerre, Alice a perdu son père, mais a survécu avec une partie de sa famille à Varsovie, d'abord dans le ghetto, dont elle s'est ensuite échappée, et donc dans la partie non-ghetto de Varsovie, ce qui est quand même notable, en se faisant passer pour non-juive, et en ayant en fait sauvé sa famille, elle, qui était adolescente. Elle est décrite dans sa famille comme rebelle et solitaire, opposée dès le plus jeune âge à la religion, très intelligente et socialement peu adaptée, ayant un sens aigu des responsabilités dans un contexte de danger vital. Après la guerre, elle émigra en Suisse, où elle a vécu et travaillé de 1946 à 1985. Elle passa à l'université de Bâle, un doctorat de philosophie et psychologie, et entreprit une formation psychanalytique qui lui permit d'exercer comme psychanalyste jusqu'en 1980. Alors, 78-1980, les dates ne sont pas très fiables, mais enfin, voilà, à peu près. La rupture avec la psychanalyse et la pratique clinique coïncide avec le déploiement dans l'écriture de sa théorie de l'enfant maltraité et du traumatisme, qui rendit rapidement célèbre Alice avec le drame de l'enfant doué, donc écrit en 78, et C'est pour ton bien, écrit en 1980. Suivi au fil des années, donc, de plus d'une dizaine d'autres livres, ayant tous connu un très grand succès international, traduit, je crois, en 30 et quelques langues, enfin bon. Je continue donc la reconstruction biographique. Les parents de Martin Miller se sont rencontrés en 1945 et leur vie commune, puis leur mariage en 1949, à la fin de leurs études, semble relever plutôt d'une cohabitation liée à la pression des circonstances, au moins du côté de la mère, d'Alice donc. Leur relation, la relation des parents, enfin d'Alice, et là je place maintenant du point de vue de Martin, d'Alice et de son mari, donc le père et la mère de Martin, cette relation a réputé avoir été d'emblée problématique jusqu'à exploser avec la naissance de la sœur cadette de Martin en 1956, née trisomique. Ils ne divorceront pourtant qu'en 1974, à l'initiative d'Alice, après un grave cancer du sein. Martin est donc l'aîné. Il est né en 1950, alors que ses deux parents finissaient leur thèse. Rejeté d'emblée par sa mère, qui dit n'avoir pas supporté son refus du sein. C'est une lettre qu'il cite. Il a été recueilli à 2 semaines par sa tante pendant 6 mois. Puis, lorsque sa sœur naît, en 1956, Martin est à nouveau placé, cette fois pendant 2 ans, dans un home d'enfants. Il décrit lui-même deux parents instables, tous les deux incapables d'amour et d'empathie, cruels, dans un climat de violence incestuelle. Le père qu'il décrit est un père qui alterne marques d'attention et violence physique et verbale. La mère qu'il décrit alterne indifférence et comportement intrusif. D'abord instituteur, ses parents lui ont interdit de faire des études. D'abord instituteur, Martin entreprend en 1980 des études de psychologie, puis une formation de thérapeute qui l'amènera à exercer ensuite. Cette période est la seule période apaisée entre la mère et le fils, le fils se décrivant alors donc comme un interlocuteur privilégié du travail de pensée de sa mère, en pleine effervescence créatrice avec ses premiers livres. Mais ça ne durera pas. Alice va convaincre son fils d'entreprendre une thérapie primale et imposa un dispositif fou qui faillit mener Martin au suicide. La thérapeute de Martin était en supervision. Jusque-là, tout va bien. C'est déjà une complication, mais la thérapeute était en supervision avec un superviseur. Sauf que le superviseur envoyait tous les enregistrements. Alors, pardon, la thérapeute envoyait tous les enregistrements à son superviseur, des séances avec Martin, et le superviseur en entretenait régulièrement Alice, la mère. À partir de quoi, bien évidemment, la maman va constater que son fils est tout à fait inapte à être thérapeute, voire même dangereux pour ses patients, et elle va donc le faire savoir et essayer d'empêcher, de tuer dans l'œuf sa carrière de thérapeute. Vous voyez ? Donc ça a consacré une rupture salutaire pour Martin entre leur relation, qui s'avéra donc à peu près définitive jusqu'à la mort d'Alice en 2010. Voilà, donc fin de la reconstitution, ou reconstruction plutôt biographique. Alors, je vais faire une longue citation pour vous mettre dans l'ambiance. Enfin, là, vous êtes déjà dans l'ambiance, mais je vais en rajouter encore. Donc, c'est le seul moment où je cite Alice Miller. C'est donc une lettre de fin 1987. Donc, la catastrophe a commencé, la thérapie imposée, etc. Et donc, cette lettre est citée par Martin en exergue de son livre sur sa mère. Il m'a fallu 30 ans, donc c'est Alice Miller qui parle, citée en somme par son fils. Il m'a fallu 30 ans pour découvrir que j'avais vécu si longtemps et avais eu 2 enfants avec un homme qui ne m'a pas écouté une seule fois. Au dernier moment, j'ai réussi à me sauver de l'autodestruction définitive. Mais je n'ai pas pu te sauver, toi. J'avais voulu te payer une thérapie qui m'a aidé à voir les réalités, vous entendez bien, qui m'a aidé à voir les réalités, après les avoir évitées pendant 60 ans. Tu as rejeté mon offre à grands cris et tu ne voulais pas en entendre parler. Il a essayé de résister, il y a plusieurs tentatives de prescription de thérapie. Au lieu de cela, tu commences de plus en plus à imiter le comportement de ton père, apparemment sans le remarquer, car tu le contestes violemment chaque fois que je te confronte à cette situation. Pourquoi m'a-t-il fallu 60 ans pour voir à quel point ma mère fut cruelle, destructrice, abusive, on ne peut plus perfide et sans cœur, qu'elle a systématiquement détruit l'amour et la vie. La moindre ressemblance avec elle me désespérait quand j'en prenais conscience. Mais dans le fond, j'ignorais pourquoi je ne voulais pas m'identifier à elle. J'avais peur de le savoir, ça c'était souligné. Je continue. Quand tu étais ici en juin, j'avais en moi l'espoir que tu voulais trouver la force et la volonté de vivre tes sentiments, de trouver ton histoire, de partir à la recherche de tes souffrances d'enfance, de les reconnaître et de te délivrer ainsi finalement de tes modèles destructeurs et autodestructeurs avant d'avoir toi-même des enfants. Il me semblait qu'ici, chez moi, ton cœur pourrait s'ouvrir et que tu permettrais peut-être au petit Martin de vivre. Cet espoir n'a pas pu se maintenir. Et tu cours ainsi le risque de faire souffrir d'autres personnes par ton aveuglement et d'éprouver cela comme juste et normal. Tu ne te permets ce comportement avec moi que parce que je représente l'enfant, n'exerce aucun pouvoir, ne t'oblige en rien, ne te procure pas de peur panique et suis sans cesse prête à discuter avec toi. J'aurais donc dû, en tant qu'enfant, te protéger absolument des coups de ton père, de sorte que j'accepterais le reproche de t'avoir abandonné sans rien faire à ses maltraitances, parce que ce reproche est justifié et fondé. Mais je refuse de servir d'exutoire à la colère rentrée que ces coups ont causé en toi. Les coups du père, hein, pas les siens à elle. Et je refuse d'être l'enfant sur la tête duquel tu frappes, quelles que soient les raisons pour lesquelles tu doives le faire, car je n'ai pas été ta persécutrice. Il ne m'a pas semblé que tu me traitais comme ton père m'avait traité, mais que tu procédais avec moi de la même façon qu'il avait procédé avec toi. T'es-tu jamais demandé le prix que tu payes pour ton refoulement ? Se transformer soi-même peu à peu en ce père pour le protéger et l'épargner, cela ne relève pas du destin. C'est bien plus une décision destructrice et autodestructrice dont tu portes toi-même, l'entière responsabilité en tant qu'adulte. Donc, j'espère que vous comprenez pourquoi je voulais citer cette longue lettre. Donc, terrible, terrible autoportrait d'une mère bien intentionnée, pleinement innocente, jusque dans la reconnaissance compétente de sa défaillance coupable et de son échec à sauver son fils. Un fils donc mis en position de témoin et pris en faute. Fils rejetant, mauvais patient, et donc thérapeute à rejeter. La mère fait la thérapeute en illustrant avec et contre son fils le bien fondé de sa théorie de l'enfant maltraité, ce qui lui permet de se retrouver, elle, comme fille maltraitée, tout en s'oubliant comme mère maltraitante et en oubliant, bien sûr, qu'elle n'est plus thérapeute, si tant est qu'elle ne l'ait jamais été. Ça, c'était pas dans mon texte. Nous sommes très exactement dans cette confusion incestuelle des places, théorisée par Ferenczi et en bonne partie reprise dans ses propres travaux. Il n'y a pas de place pour Martin Miller comme sujet maltraité. Il est désavoué comme sujet d'une parole possible sur son expérience traumatique. Le point de vue d'Alice Miller est dramatiquement tout puissant. Il s'agit d'occuper exclusivement, sans reste, les places de thérapeute et de théoricienne de son fils, pour ne pas être la mère d'un fils maltraité et s'épargner ainsi de prendre acte de l'identification, voire de l'incorporation en elle, de sa mère maltraitante. Il n'y a pas de place pour deux, en l'occurrence, il n'y a pas de place pour deux enfants maltraités. L'enfant maltraité, c'est elle, et l'absence de son propre corps d'enfant maltraité dans ses écrits théoriques sur l'enfant maltraité traduit son empêchement pendant 60 ans à le contacter en elle. Évitement lui permettant de ne pas contacter la haine pour sa mère, pour sa propre mère. C'est elle, l'enfant maltraité, et triplement, par ses parents, par son mari choisi pour être au plus près de la cruauté innocente de sa mère, et finalement par son fils, qui la maltraite pour ne pas voir qu'il la violente elle, comme son père à lui, le violentait. Comment a-t-il fait pour survivre à ça ? Si Martin Miller met en exergue cette lettre de sa mère, c'est certainement pour témoigner de la lutte à mort pour la vie qu'il a dû mener à la fois contre sa mère et avec sa théorie. Et c'est sous cet angle qu'il faut évaluer la biographie qu'il écrit après la mort de sa mère, donc, et après aussi avoir préfacé la réédition regroupée des quatre ouvrages les plus importants de sa mère, et l'avoir préfacé en ces termes. J'ai oublié, c'est l'essentiel, c'est publié il y a un an, qui regroupe quatre textes. Et il y a donc une préface de Martin Miller. Et voilà ce qu'il dit à cette préface. En tant que fils d'Alice Miller, j'ai suivi depuis le début et de façon privilégiée le développement de sa pensée. J'ai aussi eu l'occasion, ces 30 dernières années, dans l'exercice de mon métier de thérapeute, de mettre en application ces théories. Il écrit, Martin Miller donc, écrit dans une position de survivant, à son enfance d'enfant de survivant, position dont l'enjeu affiché est la reconstitution de la vie d'Alice pendant la période nazie, dont il ignorait à peu près tout, mais aussi la reconstitution des effets psychiques en elle de la persécution nazie. Je cite. Les survivants ne désirent rien de plus que de faire en sorte que leur expérience n'ait pas eu lieu. Ils érigent un mur de silence et isolent totalement leur vécu. Ils évitent toute situation leur rappelant ce qu'ils ont connu. Malheureusement, ils n'y parviennent pas, et ils engluent bien plutôt la génération suivante dans les horreurs rejetées, la prenant ainsi en otage. C'est le rôle que je joue dans l'histoire de persécution de ma mère. L'enjeu, pour Martin Miller, est tout à la fois de pouvoir s'identifier à sa mère et de récupérer rétroactivement sa place d'enfant en pensant et en se délestant de la relation inversée, c'est son terme, de la parentification, c'est des termes qu'il emprunte à sa mère, hein, de la parentification imposée à l'enfant par le clivage du parent survivant. Martin Miller rappelle que l'enfant de survivant est sommé de s'adapter aux besoins d'un vis-à-vis émotionnel, autre terme emprunté à sa mère, vis-à-vis émotionnel dont le parent donc a été privé. Il s'agit pour Martin Miller, en fait, de se persuader que l'incapacité qu'avait sa mère de l'aimer tenait simplement à la persécution des Juifs par les nazis. Je cite, « Aujourd'hui, je suis persuadé que l'incapacité d'Alice Miller à être pour moi une mère aimante est due au traumatisme solidement renfermé des années de persécution de 1939 à 1945. » Il s'agit aussi, du même coup, de se persuader que le vécu persécutif de sa mère à son endroit tient au traumatisme de la Shoah. Or, ce vécu, qui remonte en fait à la naissance de Martin, trouve précisément à se déployer à partir du moment où, d'un côté, Martin devient thérapeute et où, de l'autre côté, Alice Miller déploie sa théorie, non seulement dans l'abandon de la pratique clinique, mais dans la rupture de plus en plus revendiquée avec le référent psychanalytique. Je cite Martin. À partir des années 1980, alors que je m'étais établi comme psychothérapeute et qu'Alice Miller était devenue célèbre en tant qu'auteur, nos rapports se sont continuellement dégradés. Lors de l'écriture de ces trois premiers livres, j'étais encore dans un rapport familier étroit avec ma mère. Mais plus j'ai commencé à suivre mes propres chemins, plus notre relation s'est détériorée. S'ensuivirent des décennies de violents affrontements, de brutales agressions émotionnelles qui m'ont conduit à me retirer de plus en plus. Elle s'est mise un beau jour à me traiter en ennemi. Elle m'a donné vraiment le sentiment d'être un monstre qui voulait la détruire. Aujourd'hui, je suis sûr qu'ici aussi, le refoulement du traumatisme de guerre commençait à opérer son effet destructeur. En tant que thérapeute, je savais comment prendre des distances, mais en tant que fils, ces accès de fureur m'ont profondément blessé. Un peu plus loin. Pourtant, et j'y attache beaucoup d'importance, je ne conçois pas ce livre dans la lignée des règlements de compte. La valeur des écrits de ma mère et la portée de sa théorie, cela est aussi important pour moi, ne sont pas remis en question par son comportement envers moi. Sauf que le clivage destructeur qui caractérise la survivance ne concerne pas seulement la survivante à la Shoah, mais aussi et surtout la survivante à la pathologie familiale, notamment à la cruauté maternelle, donc je parle de la mère, hein, notamment à la cruauté maternelle, impitoyable et innocente d'elle-même, qui a inspiré l'idée de la pédagogie noire dans le second livre d'Alice Miller. Alors, le terme, comme tu le rappelais, Georges Arthur, n'est pas d'elle, mais enfin, elle l'a théorisé. Hein, elle l'a théorisé, oui, tout à fait. Dont le propos, donc, dans ce livre, de ce livre est bien exprimé par le titre français, qui ne correspond pas du tout au titre allemand, mais le titre français est plus explicite, c'est pour ton bien. Hein? En français, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien, virgule, que je te maltraite. Dans ce registre, Martin Miller nous montre que la fille a été condamnée à s'identifier à la mère. Comprenez bien, c'est lui qui le montre. Hein? Je cite. Les expériences vécues avec sa mère, donc la mère de sa mère, les expériences vécues avec sa mère, froides et émotionnellement limitées, causèrent chez la petite Alice une blessure narcissique lourde de conséquences. Tout le temps de sa vie, ma mère resta incapable de gérer les critiques. Elle ressentait dans chacune d'entre elles le rejet infantile. Elle prenait pour elle toute critique de son opinion, se sentait profondément rejetée et réagissait impitoyablement. Pour une part, et seulement pour une part, le livre de Martin Miller peut se lire comme un retour à l'envoyeur de la mainmise exercée par sa mère. Non plus être pensé par sa mère, mais penser sa mère et leur relation en s'appuyant sur sa théorie à elle. Mais effectivement, le livre ne veut pas être et n'est pas un règlement de compte. Tout le livre exprime l'aspiration à partager avec elle le statut d'enfant maltraité, partage qui n'aura pour l'essentiel pas été possible et qui aurait permis peut-être de sortir un peu de la répétition. Et la question du corps dans l'écriture est ici centrale. L'écriture de Martin Miller se veut lieu de réunion d'un fils et d'une mère débarrassés de la haine et de l'incestualité. Un lieu de réunion séparant leur corps pour mieux mettre en valeur leur semblable maltraitance par une mère rejetante et meurtrière d'âme, au-delà de la Shoah et de ses effets transgénérationnels. Et l'écriture du fils a vocation à consacrer l'écriture de la mère comme lieu de réunion pour elle, du corps et de l'esprit, surmontant la dissociation, donc c'est lui qui montre ça, hein, qui prétend montrer ça, surmontant la dissociation à l'œuvre dans sa vie, dans la vie d'Alice Miller, entre la théoricienne de l'enfant maltraité et la mère maltraitante. Là où la mère semble revendiquer que la théorie, ça n'empêche pas de ne pas savoir exister, le fils revendique pour elle la théorie comme un lieu d'existence, la théorie ou, plus précisément, la pensée d'écriture. Je cite. L'écriture devint sa perspective d'existence. Elle lui permit de se libérer du conformisme de toute une vie. Elle pouvait enfin donner libre cours à ses pensées. Elle écrivit son premier ouvrage, Le drame de l'enfant doué, d'un seul jet. Alors, âgé de 28 ans, je fus témoin de ce processus. C'était le temps où nous nous sommes trouvés le plus proches. Ma mère me parlait de ses pensées et je la découvris sous un autre jour, passionnée, ouverte, abordable, détendue. Elle se transformait radicalement, comme si elle se fondait presque dans ses pensées, comme si son corps et son esprit se rencontraient. Pour la première fois, je la sentais heureuse. Tout était vrai. En fait, c'était également son histoire. Voilà pourquoi Martin Miller entend non seulement sauver la théorie de sa mère, mais surtout prouver qu'elle est au moins partiellement praticable, en témoignant de l'usage qu'il en fait dans sa propre pratique clinique. À défaut d'avoir pu bénéficier d'une mère dans la vie, il se fait le fils de sa mère en référant sa propre pratique clinique à sa théorie à elle, tout en la discutant. Au prix sans doute d'avoir eu à affronter une tentation mélancolique. C'est un des rares gros mots que j'utiliserai, hein. Une tentation mélancolique, dans la confrontation avec une mère qui préfère dialoguer avec les morts plutôt qu'avec des interlocuteurs présents. Je cite. Je n'étais pas toujours convaincu par ses commentaires. Ils contredisaient mon expérience pratique de thérapeute. Il m'arrivait souvent de penser aux synergies positives qui auraient pu exister, si ma mère avait été en mesure de travailler avec moi en tant que partenaire. Mais notre relation était trop tendue pour cela. Ma mère préférait analyser des artistes, des poètes et des penseurs post-mortem plutôt que d'éprouver sa théorie sur des personnes réelles dans un dialogue direct. Cet étayage, à la fois de et sur l'écriture théorique de la mère, vient compléter et redoubler l'usage que Martin Miller en fait pour penser, voire penser, si vous me permettez ce jeu de mots, penser, voire penser, la mère défaillante, mère survivante au meurtre maternel et en même temps également meurtrière, telle qu'elle était donc dans la réalité de leur relation. Cette mère, tuée et tueuse, s'est construite et maintenue en vie dans la haine pour ses parents et plus particulièrement sa mère, une mère haineuse et envieuse incorporée en elle, une mère maintenue en vie pour y survivre et ne pas la perdre. Et la haine de et pour la mère, chez Alice, ne peut être conservatrice que dans l'attachement au corps de l'enfant maltraité abandonné, maintenant hors d'atteinte ainsi le lien à la mère haineuse et haïe. Dans cette perspective, la dissociation de la théorie et de la vie pourrait avoir pour fonction de garder hors d'atteinte le corps de l'enfant haï et haineux, littéralement isolé par la théorie, pensé pour ne pas être vécu. Et de ce fait, projeté sur Martin, le fils. Avant d'être projeté, je vais y venir, sur le judaïsme familial. Car une grosse partie de l'œuvre d'Aïs Miller se présente comme une protestation contre le quatrième commandement du décalogue. Une colère haineuse qui occupe donc une place centrale. Je le rappelle, ce quatrième commandement. « Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur le sol que te donne Yahvé, ton Dieu. » C'est la traduction la plus facilement partageable. Il y a beaucoup de traductions. Voilà. Alors, juste un aparté pour le plaisir, le mien en tout cas. Il y a des traductions qui sont beaucoup plus littérales, qui permettraient de faire apparaître une ligne interprétative très utile pour mon propos. C'est-à-dire, des traductions qui permettent de penser « honorer » au sens d'assumer une dette de vie, tout en donnant leur juste poids, leur juste place aux parents, ni plus ni moins. Ce qui est donc ce qu'on essaye de faire dans une analyse. Hein. Voilà. Et par là, donc honorer au ce sens-là, entraîne donc l'idée d'allonger ses jours au sens d'aller voir et vivre ailleurs. C'est-à-dire hors d'un suivisme idéalisant ou d'un rejet haineux, de face d'une même inséparation, si vous me permettez une petite invention, c'est-à-dire donc au sens de dépouiller son choix de la vie, comme on dit dans le judaïsme, c'est-à-dire d'accroître sa créativité et donc de donner place au futur, c'est-à-dire aux générations, c'est-à-dire à la sexualité, c'est-à-dire encore à l'histoire de chacun et de tous, en tant qu'elle est toujours à écrire. Voilà, c'était juste un petit aparté. Ce désaveu du judaïsme chez la mère, chez Alice, l'a aidé à survivre au nazisme, à se dissimuler comme juive et à faire montre d'une adaptation de survie particulièrement créative qui lui a permis de prendre des initiatives ayant sauvé la vie de ses proches avec la sienne. Mais le désaveu du judaïsme permet aussi à Alice Miller, sans doute, de rester identifiée à sa mère, et surtout par sa mère, en se gardant précieusement comme enfant maltraité, ayant comme obligation vitale de se cliver. De se cliver et de mobiliser la haine pour la survie, tout en la déniant dans l'agir autodestructeur, puis destructeur avec son fils. Le transfert de la haine des parents sur le judaïsme vient manifester combien cette créativité dans l'adaptation procède de la constitution pendant l'enfance d'un faux soi. C'est là où le fils reprend la main. Je cite le fils. C'est le développement extrême d'un faux soi qui sauva la vie de ma mère pendant la guerre. La conséquence tragique de ce vécu traumatique fut qu'Alice Miller continua à porter en elle deux personnalités différentes. D'une part, cette Alicidja, récalcitrante et rétive, qui se rebelle contre les normes établies et s'engage dès l'enfance pour le droit à l'existence de l'originalité humaine. D'autre part, cette Alice, pratiquement invisible, qui obéit absolument à l'obligation de s'adapter pour assurer sa survie. Et voilà une parole de sa mère que cite Martin, qui laisse entendre le refoulement chez elle du lien entre survivre à la persécution nazie et survivre à la persécution maternelle en l'intériorisant. Donc c'est Alice Miller qui parle, citée par son fils. Je cite. « J'ai dû m'imposer un autocontrôle absolu. Je n'avais pas seulement peur d'être reconnue comme juive et tuée par les nazis, mais je craignais aussi ma vitalité intérieure. » Vous entendez bien, il n'y a pas de lapsus de ma part. « Mais je craignais aussi ma vitalité intérieure. J'avais simplement peur de ne plus me contrôler suffisamment. » Et là, voilà, dans la phrase qui vient encore le refoulement que j'essaye de vous faire entendre. « Je me faisais l'effet d'être une mère devant à tout prix élever son enfant pour qu'il ne fasse pas honte à ses parents en public. J'ai commencé à m'observer en permanence. J'avais surtout peur de moi-même. » Fin de la citation. Donc il s'agit pour le fils d'appliquer la théorie de la mère. Il nous explique qu'elle répète avec lui la cruauté froide de sa mère avec elle. Sauvant sa mère comme théoricienne, en s'étayant sur sa théorie en tant que thérapeute, il fait de lui, malgré elle, un fils. Je cite à nouveau. La période pendant laquelle ma mère rédigea ses trois livres les plus importants appartient aux plus heureuses de ma vie. C'est d'elle que je me nourris jusqu'à aujourd'hui, et je dirais même que c'est dans ces bonnes années avec elle que j'ai trouvé mon fondement de thérapeute. Elle découvrit en moi un auditeur empathique qui, le visage ouvert, l'écoutait trier ses pensées et développer ses théories. C'était peut-être aussi sa façon de s'excuser auprès de moi. Car ce qu'elle écrivait au sujet du pouvoir destructeur des parents sur leurs enfants décrivait aussi bien une partie de mon enfance perdue. Mais le devenir thérapeute du fils ne peut finalement que révéler et réveiller la haine et déboucher sur ce dispositif meurtrier où la mère prescrit une thérapie à son fils, supervise cette thérapie et disqualifie son fils comme thérapeute. Comme thérapeute, c'est-à-dire la seule manière qu'il avait trouvée de survivre et faire survivre leur lien à sa destructivité. Répétant en somme la scène, la mère répète en somme la scène projective inaugurale, sinon originaire. Dès le début, tu as refusé de prendre le sein. J'en fus profondément blessé. Aïs qui parle. En conclusion. Je dirais que ce livre de Martin Miller constitue une véritable œuvre qui matérialise un espace tiers pour lui au sein duquel il peut être le fils. Certes, le fils maltraité d'une mère maltraitante qui fut fille maltraitée, mais sans être ni le thérapeute de sa mère, ni le patient de sa mère. Un espace où il a pu construire contre elle, au double sens du terme, sa solitude de fils et sa solitude de thérapeute, ni persécuté ni persécuteur, attestant de sa capacité à créer la possibilité de sortir sa mère avec lui d'une répétition transgénérationnelle. Répétition malheureusement agit dans la réalité jusqu'à la fin par Alice Miller, comme si l'enfant maltraité en elle devait rester inaccessible au fils pour rester malgré lui et malgré lui étayée sur elle, pour rester elle la seule et unique propriétaire de l'enfant maltraité, de cet enfant dont avait besoin sa mère à elle, toujours et encore présente comme telle. En 1998, elle lui exprime enfin son repentir à son fils. Alors je cite encore un peu longuement, mais écoutez bien. Donc elle exprime son repentir. « Je t'ai si souvent abandonné dans ton enfance, laissé à d'autres personnes. Je n'ai pas bien compris tes besoins, tes peurs et ton désespoir, et au lieu d'éprouver pour toi de l'empathie, je t'ai envoyé chez tante Alice à l'âge de 2 semaines. Au lieu de te comprendre, parce que je ne le pouvais pas, je t'ai poussé à suivre une thérapie qui non seulement n'a servi à rien, mais qui a mis ta vie en danger. Vous voyez tout ce qui manque, hein, dans le repentir. J'ai pu ressentir de l'empathie pour tant de personnes, mais je n'ai pas pu le faire avec mon fils. Quand il me l'a dit, je l'ai contesté. Troisième personne, vous avez remarqué aussi, hein, troisième personne. C'est justement pour lui que l'empathie me manquait, non sans raison. C'est une lettre à son fils, hein. C'est justement pour lui que l'empathie me manquait, non sans raison. Si j'avais pu me mettre à sa place, j'aurais dû me ressentir tel que j'étais envers lui. Inconsciente, froide, dure, toujours à le corriger, à vouloir l'éduquer, et jamais vraiment comme j'aurais voulu être, comme je m'imaginais être. Quand il n'a plus voulu se laisser troubler, j'ai dû enfin regarder dans le miroir, j'ai dû voir qu'avec mon premier enfant, j'agissais exactement comme ma mère avait agi avec moi. Malgré ma formation, je n'ai pas réussi à échapper à ce destin. Mais se repentir exprimé dans des termes appropriés reste pourtant prisonnier d'un terrible clivage que Martin Miller découvre quand il apprend par sa collaboratrice directe, sa mère, que pendant qu'elle écrivait cette lettre, sa mère ne cessait dans la même période de dénier la manipulation intrusive qui avait présidé à la supervision par elle de la thérapie de son fils. Ainsi, finalement, il se dégage de l'emprise et du clivage maternel, il sort de la position de témoin muet qui lui fut imposée par ses parents quand il était enfant et que sa mère cherchait, au fond, à indéfiniment perpétuer. Il en sort, très classiquement, il en sort par l'étayage sur un témoin tiers qu'il désigne avec la terminologie maternelle comme témoin lucide ou témoin secourable. Un témoin tiers qui lui permet de mettre en œuvre les concepts de sa mère pour s'en libérer. Ou du moins, soyons plus ma bête, ou du moins pour créer l'espace d'une question. La question, la voilà. Que signifiait cette double attitude de communication? Cet aveu de culpabilité face à moi et ce silence ou cette calomnie, en italique, et ce silence ou cette calomnie face à son ami thérapeute. Voilà.